10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Je suis toujours ramenée vers les lieux où j'ai vécu, les maisons et leur voisinage. Ainsi par exemple, cette maison brune dans le Lower East Side, où pendant les premières années de la guerre, j'eus mon premier appartement new-yorkais. Il consistait en une pièce encombrée d'un mobilier de grenier, sofa et chaises bouffies, recouvertes de ce velours râpeux et d'un rouge particulier que l'on associe au voyage en été dans un train. Les murs étaient revêtus de stuc et d'une couleur assez analogue au jus de chic. Partout, même dans la salle de bain, il s'ornait de gravures représentant des ruines romaines, tavelées par l'âge. L'unique fenêtre s'ouvrait sur l'échelle d'incendie. Malgré cela, je me sentais ragaillardie lorsque je tâtais dans ma poche la clé de cet appartement. En dépit de sa mélancolie, c'était tout de même un endroit à moi, le premier, et j'y avais mes livres et des pots pleins de crayons à aiguiser. Tout ce dont j'avais besoin, je le sentais, pour devenir l'écrivain que je voulais être. Il ne me serait jamais venu à l'esprit à cette époque d'écrire au sujet de Holly Golightly. Qui ne connaît ou bien n'a jamais lu « Petit déjeuner chez Tiffany » ? Qui ne connaît ou bien n'a jamais vu « Diamant sur canapé » adapté pour le cinéma de la nouvelle de Truman Capote « Breakfast at Tiffany's » ? Nous sommes à New York, dans les années 50. Le narrateur, dont nous ne connaîtrons pas le nom, se souvient avec tendresse de son amitié quelques années auparavant avec Holly Golightly. Dans ses souvenirs, il y raconte la première fois qu'il l'a vue, réveillée par du tapage dans l'escalier, un soir après minuit. Je sortis sur le palier et me penchai au-dessus de la rampe, assez pour voir sans être vue. Elle était encore dans l'escalier, mais présentement la bigarrure de ses cheveux de garçon, coulée fauve, mèche d'un blond blanc et d'un blond jaune, accrochèrent l'éclairage du palier. La soirée était chaude, proche de l'été, et elle portait une mince et fraîche robe noire, des sandales noires, un collier de chien en perles. En dépit de son élégante minceur, elle gardait l'air de santé des petits déjeuners aux flocons d'avoine, l'air de propreté des savons au citron et des joues assombries d'un rouge sommaire. La bouche était grande, le nez retroussé. Une paire de lunettes noires obturait ses yeux. C'était un visage ayant passé l'enfance, mais tout près d'appartenir à la femme. Je la situais approximativement entre 16 et 30 ans. Comme je l'appris par la suite, elle était à 2 mois de son 19e anniversaire. Holly est ce qu'on appelle une demi-mondaine, avec un brin d'euphémisme, une fille légère, qui, sous couvert d'une vie nocturne joyeuse, subsiste grâce aux hommes fortunés de rencontres. D'autre part, elle reçoit régulièrement une somme d'argent pour rendre visite à un gangster chaque semaine dans sa prison. Lors d'une soirée agitée dans l'appartement de Holly, le narrateur rencontre les hommes qui gravitent autour d'elle. Il en vint une multitude. Dans le temps du quart d'heure qui suivit, une troupe de messieurs seuls, dont plusieurs éléments étaient en uniforme, avait envahi l'appartement. Je comptais 2 officiers de marine et 1 colonel d'aviation. Mais ils furent dépassés en nombre par de nouveaux arrivants à tête grisonnante, ayant dépassé la limite d'âge. À part leur absence de jeunesse, les invités n'avaient rien en commun. C'était comme si l'hôtesse avait distribué ses invitations au hasard, de zigzag, à travers des bars variés, ce qui était probablement le cas. Dès sa première rencontre avec le narrateur, Holly décide de l'appeler Fred, disant qu'il lui rappelle son frère bien-aimé, Fred, officier de l'armée en Corée. Ainsi, elle attribue à ce garçon la place à laquelle il peut prétendre dans sa vie. De voisin, il devient confident, témoin fidèle des conduites erratiques de sa voisine. Il en deviendra le chroniqueur. Je me souviens d'avoir vécu beaucoup de journées ici et là avec Holly, et il est bien vrai que durant certaines périodes, nous nous vîmes beaucoup. Quelquefois, m'arrêtant chez elle, je partageais son café du réveil pendant qu'elle s'habillait pour la soirée. Elle était perpétuellement sur le point de sortir. Pas toujours avec Rusty Trawler, mais le plus généralement, Mag Willwood les rejoignait avec son beau Brésilien, dont le nom était José Ibarra Jégar. Le jour où le séduisant diplomate brésilien José Ibarra Jégar demande Holly en mariage, elle accepte, exaltée par la perspective de partir vivre avec lui au Brésil. C'est le moment où, soupçonnée de participer à un trafic de drogue, en lien avec ses visites auprès du gangster Sally Tomato, la police vient l'arrêter. José rompt leur fiançailles. Holly décide alors de ne pas rembourser la caution de 10 000 dollars que l'un de ses protecteurs a versé pour elle et de s'envoler pour le Brésil en utilisant le billet d'avion que José lui avait acheté. Elle prévoit d'y trouver un autre mari fortuné. Breakfast at Tiffany's a été publié en 1958 par le magazine Esquire, puis édité par Random House alors que Truman Capote avait 34 ans. Grâce aux critiques, la nouvelle est rapidement devenue un best-seller. Sa popularité s'est accrue avec la sortie de l'adaptation cinématographique de Black Edward en 1961 avec la pimpante brune Audrey Hepburn dans le rôle de Holly. Le film est devenu un classique cinématographique intemporel. Or, cela s'est fait au prix des transformations radicales des personnages, en édulcorant leur caractère et en apportant une interprétation simplifiée de la nouvelle de Truman Capote, afin de rendre l'intrigue plus conventionnelle, plus joyeuse, plus légère et plus convenable. Capote a détesté le film. L'élégance et la silhouette gracile d'Audrey Hepburn, adorable et cervelée, dans sa petite robe noire, Givenchy, accessoirisée de perles, de lunettes de soleil et d'un porte-cigarette, ont recouvert le personnage du livre. Cette Holly fantasque, aux cheveux décolorés et blonds, maltraitée dans son enfance au Texas, mariée à 14 ans, fugueuse et réfugiée à New York à la recherche d'un homme riche qui pourrait lui apporter la sécurité. Le narrateur, jeune écrivain discrètement homosexuel, a été transformé dans le film en un architecte hétérosexuel bien masculin, entretenu par une riche bourgeoise. Les détails sordides de la vie de Holly ont été pratiquement effacés, leur donnant la couleur de la comédie. Holly vit bien davantage un drame, une déroute, subsistant de ce que les hommes veulent bien lui accorder. La fête pour Holly est un moyen de survie. Elle n'a que 19 ans, elle joue la légèreté, alors que ce n'est que bravade. La fin du film est heureuse, selon les critères hollywoodiens. Holly Audrey renonce au Brésil et reste avec le narrateur. Nous pouvons penser qu'ils auront beaucoup d'enfants. Dans la nouvelle, Holly monte dans l'avion et disparaît. L'histoire que raconte Truman Capote est toute de mélancolie, cachée derrière la désinvolture. C'est le récit désenchanté de ceux qui cherchent un avenir dans la grande ville, sans avoir le pouvoir ou les moyens de réaliser leurs rêves. C'est aussi l'histoire d'une amitié platonique, racontée avec tendresse. Retrouvons-nous le 21 avril dans 10 minutes chronique, Viva Culture, sur Westrack Radio.